la dispense arriva, l'absolution arriva, le grand jour arriva lui-même. Les deux fiancés allèrent, avec une sécurité triomphale, à cette église qui depuis si longtemps les attendait, et où, par la bouche même de Don Abondio, ils devinrent époux. Un autre triomphe, et bien plus singulier, fut leur marche vers ce château que vous connaissez trop bien. Et je vous laisse à penser quelles idées durent occuper leur esprit, tandis qu'ils gravissaient cette montée, qu'ils franchissaient le seuil de cette porte, et quels discours ils durent tenir, chacun selon son caractère. Je dirai seulement qu'au milieu de leur joie, tantôt l'un, tantôt l'autre, répéta plus d'une fois que pour que la fête fût complète, il eût fallu y voir le pauvre père Cristoforo. Mais pour son propre bonheur, disaient-ils ensuite, il est mieux que nous, bien sûrement. Le marquis leur fit grand accueil, les conduisit dans une belle office, fit placer à table les époux avec Agnese et la marchande, et, avant de se retirer pour dîner ailleurs avec Don Abondio, il voulut, pendant quelque temps, tenir compagnie à ses conviés et aida même à les servir. Il ne viendra, j'espère, à l'esprit de personne de dire qu'il eût été plus simple de ne faire qu'une seule table. Je vous l'ai donné pour un brave homme, mais non comme un original, comme on dirait aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il était humble, mais non qu'il fût un prodige d'humilité. Il en avait assez pour se mettre au-dessous de ses bonnes gens, mais non pour se tenir au pair avec eux. Après les deux dîners, le contrat fut pressé de la main d'un docteur qui ne fut point Azzecca Garbugli. Celui-ci, je veux dire sa dépouille mortelle, était, comme elle l'est encore, à Cantarelli. Et pour les personnes qui ne sont pas de ces contrées-là, je vois bien qu'il faut ici une explication. À un demi-mille environ, au-dessus de l'Écho, et presque à côté d'un village appelé Castello, est un lieu dit Cantarelli, où deux chemins se croisent. Et à l'un des angles de leur rencontre, on voit une élévation de terrain, une sorte de butte artificielle surmontée d'une croix, laquelle butte n'est autre chose qu'un monceau de cadavres de gens morts dans la peste qui nous a si longuement occupés. La tradition, il est vrai, dit simplement les morts de la peste. Mais ce doit sûrement être celle-ci qui fut la dernière et la plus meurtrière dont on ait conservé le souvenir. Et vous savez que les traditions, par elles-mêmes, et si on ne les aide pas, en disent toujours trop peu. Au retour, il n'y eut rien qui mérite d'être mentionné que l'inconvénient d'un peu de fatigue pour Renzo par le poids des espèces qu'il emportait. Mais notre homme, comme vous savez, avait enduré bien autre chose dans sa vie. Je ne parle pas du travail de son esprit et qui n'était pas des moins actifs, sur la meilleure manière de faire fructifier cet argent. À voir les idées qui passaient par cet esprit, les projets qui s'y formaient, les questions qui s'y agitaient pour et contre l'agriculture et l'industrie, on eût dit deux académies du siècle passé qui s'y seraient rencontrées. Et pour lui, l'embarras était bien plus réel, parce que, n'ayant que sa seule personne à mettre à l'œuvre, on ne pouvait lui dire « Qu'est-il besoin de choisir? Prenez l'une et l'autre. Les moyens, au fond, sont les mêmes, et ce sont deux choses qui vont comme les jambes, mieux à deux que l'une sans l'autre. » On ne songea plus qu'à faire ses paquets et à se mettre en route. La famille Tramalino pour sa nouvelle patrie et la veuve pour Milan. Il y eut bien des larmes versées, bien des remerciements exprimés, bien des promesses de se revoir échangées. Aux larmes près, l'attendrissement ne fut pas moindre dans la séparation de Renzo et de sa famille d'avec son hôte et son ami. Et ne croyez pas qu'avec Don Abondio, les adieux aient été plus froids. Ces bonnes créatures, avaient toujours conservé un certain attachement respectueux pour leur curé, et celui-ci, dans le fond, leur avait toujours voulu du bien. Ce sont ces malheureuses affaires qui viennent troubler les affections. On demandera probablement s'ils ne ressentirent pas aussi du chagrin à quitter leur pays natal, à s'éloigner de leurs montagnes. Oui, sans doute, ils en ressentirent, et nous pourrions dire, en fait de chagrin, qu'on en trouve un peu partout. Il faut croire cependant que celui-ci ne fut pas bien fort, puisqu'ils auraient pu l'éviter en restant chez eux, maintenant que les deux grands obstacles à une semblable résolution, Don Rodrigo et l'arrêt de la justice, n'existaient plus. Mais déjà depuis longtemps, ils s'étaient tous trois accoutumés à regarder comme leur pays celui où ils allaient se rendre. Renzo en avait par avance fait goûter le séjour aux deux femmes, en leur disant toutes les facilités qui trouvaient les ouvriers, et mille choses sur la vie heureuse que l'on y menait. Du reste, ils avaient tous passé des heures bien amères dans celui qu'ils abandonnaient, et de tristes souvenirs finissent toujours par altérer le charme du lieu qui les rappelle. Et si ce lieu est celui qui nous vit naître, ces souvenirs ont peut-être quelque chose de plus âpre encore et de plus poignant. L'enfant, dit notre manuscrit, se plaît à reposer sur le sein qui l'allaite. Il cherche avec confiance et avidité la mamelle où, jusqu'alors, il a trouvé l'aliment qu'il savoure dans sa douceur. Mais si, pour l'en dégoûter, la nourrice a mouillé d'absinthe cette mamelle dont il est jaloux, l'enfant étonné se détourne. Il y revient pourtant, ses lèvres s'y essaient encore. Mais rebuté de nouveau, il s'en détache enfin et la fuit. Il pleure, mais il la fuit. Maintenant, que direz-vous en apprenant que dès leur arrivée, et lorsqu'ils venaient à peine de s'installer dans leur nouveau pays, Renzo y trouva des désagréments tout près qui l'attendaient, des misères, si vous voulez. Mais il faut si peu pour troubler une situation heureuse. En peu de mots, voici le fait. Tout ce qui s'était dit dans l'endroit, sur le compte de Lucia, longtemps avant qu'elle y arrivât, ce que l'on y savait des peines que Renzo avait endurées pour elle, sans jamais laisser ébranler sa constance et sa fidélité, peut-être aussi quelques mots de quelque ami partial pour lui et pour tout ce qui lui appartenait, tout cela avait fait naître une certaine curiosité de voir la jeune femme, un certain préjugé en faveur de sa beauté. Or, vous savez ce que c'est qu'un préjugé semblable et quelle est sa façon d'agir. Il se crée des images, il y croit, il est sûr de son fait. À l'épreuve ensuite, il devient difficile, dédaigneux, ne trouve plus de quoi le satisfaire, parce qu'au fond, il ne savait lui-même ce qu'il voyait. Et il fait payer sans pitié les avantages qu'il avait accordés sans raison. Lorsque cette Lucia vint apparaître, plusieurs qui lui supposaient peut-être des cheveux vraiment d'or, des joues vraiment de rose, des yeux lançant de véritables traits, et que sais-je de merveilleux encore, ceux-là se mirent à hausser les épaules, froncer leur nez et dire « Quoi, ce n'est que cela? Après un si long temps, après tant de discours, on s'attendait à quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce donc après tout, une paysanne, comme tant d'autres? Ah bien, pour des figures pareilles, ou qui même va le mieux, on en trouve partout. » Venant ensuite aux détails, il remarquait, celui-ci un défaut, celui-là un autre, et il y en eut même aux yeux de qui tout en elle était laid. Comme pourtant, personne n'allait dire en face ces sortes de choses à Renzo, il n'y avait pas jusqu'ici grand mal. Ceux qui le firent, le mal, furent certains qu'ils les lui rapportèrent. Et Renzo, que voulez-vous, en fut piqué au vif. Il se mit à ruminer sur ses propos, à s'en plaindre amèrement, et avec ceux qui l'en entretenaient, et plus longuement avec lui-même. Que vous importe à vous autres? Que vous a dit de vous attendre à telle ou telle chose? Suis-je jamais venu vous en parler, vous dire qu'elle fut belle? Et quand vous me le disiez, vous ai-je jamais répondu autre chose, sinon que c'était une brave fille? C'est une paysanne. Vous ai-je jamais dit que je vous amènerais une princesse? Elle n'est pas de votre goût. Ne la regardez pas. Vous en avez des belles femmes. Ne regardez qu'elle. Et voyez un peu, comme quelquefois, il suffit d'une bagatelle pour décider de la situation d'un homme pendant toute sa vie. Si Renzo avait été obligé de passer la sienne dans ce pays, selon son premier dessein, c'eût été une vie fort peu gaie. À force d'éprouver du déplaisir, il était devenu déplaisant lui-même. Il était désobligeant envers chacun, parce que chacun pouvait être de ceux qui se permettraient de critiquer Lucia. Non qu'il leur rompît proprement en visière, mais vous savez que de choses peuvent se faire sans manquer aux règles de la bienséance, tout jusqu'à s'ouvrir le ventre avec son voisin. Il y avait je ne sais quel rire sardonique pour chacun de ses propos. Il trouvait de son côté à critiquer sur tout. C'était au point que, si le temps était mauvais, 2 jours de suite, il disait aussitôt « Voilà ce que c'est que ce pays !» Je ne crains pas d'avancer que nombre de personnes en étaient déjà fatiguées, même parmi celles qui auparavant lui voulaient du bien. Et avec le temps, d'une chose à l'autre, il se serait trouvé, pour ainsi dire, en guerre avec presque toute la population, sans pouvoir peut-être se rendre compte à lui-même de ce qui était la cause première d'un si grand mal. Mais on dirait que la peste s'était chargée de raccommoder tout ce qu'il faisait de travers. Elle avait emporté le maître d'une autre filature située presque aux portes de Bergame. Et l'héritier, jeune débauché qui, dans tout cet édifice, ne trouvait rien de propre à le divertir, avait résolu et se montrait pressé de le vendre, même à moitié prix. Mais il voulait des écus sonnants pour les employer de suite d'une manière tout autre que productive. La chose étant venue aux oreilles de Bortolo, il courut voir, il traita. Meilleur marché ne se pouvait faire. Mais cette condition de l'argent comptant gâtait tout, parce que la somme qu'il avait mise de côté peu à peu, et à force d'épargne, était loin d'arriver à celle qu'il fallait débourser. Il donna à son homme une sorte de demi-parole et s'en revint bien vite, communiqua l'affaire à son cousin et lui proposa de la faire de moitié avec lui. Une proposition si avantageuse mit fin aux incertitudes économiques de Renzo, qui se décida aussitôt pour l'industrie et répondit par une adhésion. Ils allèrent ensemble sur les lieux et le marché se conclut. Lorsqu'ensuite les nouveaux maîtres vinrent s'établir dans leur propriété, Lucia, qui là n'était nullement attendue, non seulement ne fut pas sujette aux critiques, mais on peut dire qu'elle ne déplut point. Et Renzo ne tarda pas à savoir que plus d'un de ses nouveaux juges avait dit « Avez-vous vu cette belle Baggiana qui nous est venue ?» L'épithète faisait passer le substantif. Du déplaisir qu'il avait éprouvé dans l'autre pays, il lui resta une utile leçon. Jusqu'alors il avait été un peu leste dans ses sentences et se laissait aller volontiers à critiquer la femme d'autrui comme toute autre chose. Maintenant, il s'aperçut que les paroles font un effet dans la bouche qui les dit et un autre à l'oreille qui les entend. Et il prit un peu plus l'habitude d'écouter intérieurement les siennes avant de les prononcer. Ne croyez pas cependant qu'il n'eût point encore ici quelque petit ennui. L'homme, dit notre anonyme, et vous savez par expérience qu'il avait un goût un peu singulier en fait de comparaison, mais passez-lui encore celle-ci qui paraît devoir être la dernière. L'homme, tant qu'il est en ce monde, est un malade qui, couché dans un lit plus ou moins incommode, en voit d'autres autour de lui, bien refaits au dehors, bien unis, bien de niveau de partout. Et il se figure qu'on doit s'y trouver, on ne peut mieux. Mais s'il parvient à changer, il ne sait pas plutôt arranger dans son nouveau lit qu'il commence, en appuyant dessus, à sentir ici une pointe qui le pique, là un tampon qui le presse. Et en somme, c'est à peu près comme c'était avant. C'est pourquoi, ajoute l'anonyme, on devrait plutôt songer à bien faire qu'à être bien. Ce serait le moyen de finir par être mieux. La pensée est un peu tirée par les cheveux et tout à fait digne d'un secentista. Mais au fond, il a raison. Toutefois, ajoute-t-il encore, des chagrins et des troubles de l'espèce et de la gravité de ceux dont nous avons fait le récit ne se renouvelèrent plus pour nos braves gens. Ce fut, à partir de cette époque, une vie des plus calmes, des plus heureuses, des plus dignes d'envie, de sorte que, si je vous la racontais, elle vous ennuierait à la mort. Les affaires allaient à ravir. Dans les commencements, il y eut un peu d'embarras par la rareté des ouvriers et par les prétentions et la conduite assez désordonnée de ceux qui restaient, nécessairement en petit nombre. On publia des édits qui limitaient les salaires, et malgré ce secours, les choses reprirent leur marche, parce qu'il faut bien que tôt ou tard, elles la reprennent. Il arriva de Venise un autre édit un peu plus raisonnable. L'exemption, pendant 10 ans, de toute charge réelle et personnelle pour les étrangers qui viendraient habiter sur le sol de la République. Ce fut pour les nôtres une nouvelle cause de prospérité. Avant l'année révolue depuis le mariage, une jolie petite créature vint au monde. Et comme si c'eût été fait exprès pour fournir tout de suite à Renzo le moyen d'accomplir son édifiante promesse, ce fut une fille. Vous pouvez bien croire qu'on lui donna le nom de Marie. Avec le temps, ensuite, il en vint je ne sais combien d'autres, de l'un et de l'autre sexe. Et Agnese avait affaire à les promener chacun à leur tour, en les appelant petits méchants et leur appliquant sur la figure de gros baisers qui y laissaient le blanc pour plus d'un quart d'heure. Ils furent tous portés au bien, et Renzo voulut que tous apprissent à lire et à écrire, disant que, puisque cette coquine de science existait, il fallait au moins qu'eux aussi en profitassent. L'intéressant était de l'entendre raconter ses aventures, et il finissait toujours en disant les grandes leçons qu'il y avait trouvées pour apprendre à se mieux conduire à l'avenir. « J'ai appris, disait-il, à ne pas me mettre dans les bagarres. J'ai appris à ne pas prêcher dans la rue. J'ai appris à ne pas trop lever le coude. J'ai appris à ne pas tenir un marteau de porte à la main lorsque j'aurai autour de moi des gens à la tête chaude. J'ai appris à ne pas m'attacher une sonnette au pied avant d'avoir pensé à ce qui peut s'en suivre. Et cent autres choses encore. » Lucia, cependant, sans trouver la doctrine erronée en elle-même, n'en était pas pleinement satisfaite. Il lui semblait vaguement que quelque chose y manquait. À force d'entendre répéter la même chanson et d'y réfléchir à chaque fois, « Et moi, dit-elle un jour à son moraliste, que voulez-vous que j'aie appris? Je ne suis pas allée chercher les mots. Ce sont eux qui sont venus me chercher moi-même. » À moins que vous ne pensiez, ajouta-t-elle avec un sourire plein de douceur, que mon manque de prudence ait été de vous aimer et de vous promettre ma main. Renzo, dans le premier moment, demeura embarrassé. Après avoir longuement débattu ensemble la question et cherché à la résoudre, ils s'arrêtèrent à cette pensée que les mots viennent souvent, il est vrai, parce qu'on leur fournit une cause, mais que la conduite la plus circonspecte et la plus innocente ne suffit pas toujours pour les écarter, et que lorsqu'ils viennent, qu'il y ait ou non de notre faute, la confiance en Dieu les adoucit et les rend profitables pour une meilleure vie. Cette conclusion, bien que trouvée par de pauvres gens, nous a paru si juste que nous avons jugé à propos de la placer ici comme la vérité où elle conduit en dernière analyse. Si cette histoire ne vous a pas tout à fait déplu, sachez en gré à celui qui l'a écrite et un peu aussi à celui qui l'a raccommodée. Mais si par malheur nous n'avions fait que vous ennuyer, veuillez croire que ce n'a pas été à dessein. Thank you.